Nous avons, il y a une quinzaine, identifié quelques-uns des jeunes que nous sommes parfois appelés à identifier quelques géants qui se trouvent parfois sur notre route, des difficultés, des épreuves, des tentations, des échecs, etc., qui sont parfois vécus comme des géants à affronter, auxquels il faut faire face, que le Seigneur nous aide. Et tout à l'heure, les dons spirituels, les paroles prophétiques allaient aussi dans ce sens. Dieu pourvoit à tous nos besoins au jour le jour. Il ne nous dit pas tout, il ne nous donne pas tout instantanément, mais il pourvoit à chaque instant de chaque jour pour le nécessaire, et ainsi nous pourrons être assurés de son amour et de son accompagnement. Le chrétien n'est pas meilleur que les autres, mais il a quelqu'un qui l'accompagne dans son cheminement, et ça fait toute la différence. Et au travers de l'histoire de David et de Goliath, qu'on va reprendre encore ce matin, on voit comment le Seigneur nous accompagne pour faire face à ce qui pourrait être encore pour nous un géant. Avant de garder en mémoire le récit de 1 Samuel 17, David contre Goliath. Avec le théologien pour identifier le parcours de David, et ils ont essayé de comprendre à quel moment il avait écrit tel ou tel psaume. Et très souvent, David s'exprime dans les psaumes qui sont une prière qui était chantée, et très souvent à l'issue d'un combat, d'une bataille, après avoir surmonté, renversé la géant, David s'exprime au travers d'un psaume. Et donc, le psaume 27, verset 1er, nous dira: L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est quelque chose que j'aimerais laisser sur votre cœur pour aujourd'hui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui n'aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, je pouvais en parler puisqu'il était souvent engagé dans des batailles. Mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? La réponse, c'est plus faible. Et Dieu est pour nous. Alors l'histoire de David commence dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 dans la Bible. Samuel est chargé d'aller à Bethléem où résidait toute la famille de David, et est appelé à choisir un nouveau roi en remplacement de Saül. Et à ce moment-là, tous les frères de David, il en avait sept, tous les frères de David se présentent devant le prophète Samuel, et en voyant Rémi arriver, qui était le plus grand, Samuel se dit certainement: c'est lui que Dieu a choisi. Et c'est à ce moment-là que Samuel va découvrir quelque chose, à la fois pour lui, mais aussi pour tous les chrétiens, pour les croyants de tous les temps. Et l'homme dit, l'homme regarde à qui frappe les yeux, aux apparences. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au caractère. L'Éternel regarde aux motivations, à l'intérieur. Et c'est ce qui est le plus important pour ces gens. Le caractère, le cœur, ce qui est l'essentiel de notre vie. Et à ce moment-là, tous les sept frères défilent devant le prophète Samuel, puis Samuel est tout de même gêné. C'est un prophète, un porte-parole de Dieu, un homme de Dieu, il est quand même. J'ai bien entendu ta voix, Seigneur, c'est bien la place ici. Et il se pose la question: mais n'y a-t-il que ces sept-là? N'y a-t-il pas encore un fils, dit-il au père de David. Et là, il dit: oui, il y en a encore un, il faut que tu aies, il est dans les chambres. Enfin, bon, mais où est-ce que tu es? Et on s'aperçoit que c'est lui que Dieu a choisi pour être le successeur du roi Saül. Vous voyez comme Dieu, quelquefois, l'homme est parfois impressionné par l'apparence, mais Dieu sait qu'il choisit. Le président. ne fais pas attention à son apparence, à son grand temps, disait-il de lui. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et à ce moment-là, Samuel veut lui donner l'onction. C'est-à-dire qu'il est venu avec une petite trousse d'huile et il a versé sur la tête de David. C'est ce qui se pratiquait à ce moment-là pour les rois, pour les prophètes, mais aussi pour les sacrificateurs, pour les prêtres, les intermédiaires entre Dieu et le peuple. C'était un signe de mise à part pour le service. En l'occurrence, ici, c'était le service royal. Il allait devenir le futur roi d'Israël. Or, que se passe-t-il après ce grand moment, enfin, ce moment de la vie de David, que se passe-t-il à ce moment-là? Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Samuel retourne chez lui, les frères de David partent à la guerre. David retourne dans les champs pour s'occuper des troupeaux. Et là, mes amis, David va faire face à un géant que nous connaissons tous. Ce géant s'appelle le délai, le retardement, l'attente, la temporisation, le contre-temps. Il est retenu. Et très souvent, entre le moment où on a à cœur de faire quelque chose, on a un projet, on a quelque chose qui ressemble à rien. Entre le moment où on porte cela et le moment de sa réalisation, il se passe bien du temps. Le Seigneur 17, verset 15 nous dit: David faisait le vin et bien, quittant Saül pour y garder les brebis de son père avec l'âme. Au verset 2 du chapitre 18, ce jour-là, Saül garda David chez lui, il ne le laissa pas retourner chez son père. Alors David est retenu tantôt par les uns, tantôt par les autres. Il est empêché, il est retenu. Et on découvre cette grande vérité. Aucun rêve, aucun projet, aucun plan, même venant de Dieu, aucune destinée ne s'accomplisse instantanément. Instantanément. David a été retenu par son père, par ses frères et par le roi. Et certains parmi nous, ce matin, savent de quoi. Vous avez été retenu, vous avez été empêché. Peut-être avez-vous été empêché à cause de vos origines, peut-être à cause de la couleur de votre peau, peut-être parce que vous êtes une femme, ou bien parce que vous n'avez pas tel ou tel diplôme, tel ou tel papier, tel ou tel formation. Vous avez été empêché. David a été retenu même par le jugement de sa propre. On l'a dit même quasiment, lorsqu'on a le cœur de faire quelque chose pour Dieu, soyez sûr que vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas, pour telle ou telle raison. Et c'est le cas pour David, et c'est une grande raison. Le géant délai, le géant retardement, le géant attendant. Êtes-vous dans une saison d'attente? Une saison de une saison où vous êtes comme empêché, retenu, indéli. Le témoignage des héros de la foi dans Hébreux 11 est marqué par des temps d'attente. Abraham a attendu 25 ans. Avec Sarah aussi, ils ont attendu 25 ans pour avoir un fils. Joseph a connu 13 ans d'attente avant de voir l'accomplissement de son rêve. Moïse a attendu, savez-vous combien? 40 ans avant d'avoir été nommé à la tête du peuple d'Israël pour cette grande entreprise sortie de l'Égypte et traversée du désert. Le peuple a attendu 40 années pour pouvoir intégrer la terre promise. Et David a attendu à peu près une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans pour être établi. On peut se dire, mais c'est aussi la croix. Dieu nous donne des promesses, Dieu nous dit des choses, puis ensuite, il nous fait patienter, il nous fait attendre, on va voir dans un moment à quoi ça ressemble. Joseph a été retenu. Le psaume 105 nous dit, verset 17, il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché son pied avec des chaînes, on a scellé son cou dans des fers, jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a libéré, le dominateur du peuple l'a libéré. Joseph avait été pris dans des chaînes, dans des boulets, jusqu'à ce que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Et entre ce moment où il avait été visité par Dieu, ce peuple, il avait eu un rêve de Dieu, et le moment où il sort de prison, il est passé 13 ans, il y a eu du travail dans ce cœur. Et l'importance du délai, de l'attente, de la pause dans notre vie, c'est ce temps qui nous est consacré, qui nous est destiné à travailler et du travail dans notre cœur. Ce que vous trouvez dans une telle saison, à l'épine, nous sommes aussi en train de vivre cette saison, nous passons par un temps d'attente, et tout particulièrement ce qui concerne les locaux aussi, un temps de pause. Un temps comme une parenthèse dans laquelle on est appelé à chercher Dieu, à réfléchir, mais aussi à recevoir le discernement, la pensée de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour notre Église, en termes de locaux, savoir que veux-tu, et avec les anciens, avec le Seigneur, avec les responsables, avec toute l'Église, nous prions pour savoir quelle est la pensée de Dieu, afin que nous soyons dirigés. Habacuc chapitre 2, le Dieu de sa manière, l'Éternel m'a répondu, il a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle part de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, il le fera. À condition que nous restions proches de lui, nous restions attentifs. Nous restons vraiment dans l'obéissance de ce qu'il a prévu pour nous. Alors, les délais sont multiples et variés. L'attente d'un partenaire, d'une vie, d'un conjoint. Certains commencent à trouver le temps long. Certains souffrent de la solitude et disent à Dieu, mais pourquoi? 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 Je vous rassure, ceux qui sont célibataires, il y a des gens mariés qui disent aussi pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ça existe. On a tous des pourquoi. Pourquoi attendre, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'aimes plus. Oui, le Seigneur nous aime. Il nous aime. Et ce matin encore, dans les dons spirituels, cela nous a été rappelé. Un délai peut-être dans votre entreprise, un délai peut-être pour votre association, un délai peut-être au niveau de votre carrière. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une guérison, vous dites souvent pourquoi. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une solution, d'une direction particulière. Et la chose tarde à venir. Vous dites pourquoi, Seigneur. Peut-être que tu attends le retour d'un fils, le retour d'une fille. Et il y a toujours un délai. Et dans ce temps de délai, de temps de pause, de retardement, Dieu travaille au niveau de notre vie intérieure. Parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant pour Dieu, c'est notre caractère, c'est notre formation de recherche, notre maturité spirituelle, notre maturité aussi en tant que disciple de Jésus-Christ. Le délai, l'attente, les pauses sont nécessaires pour notre développement. Il est intéressé par la transformation de notre caractère. Et l'Évangile, mes amis, l'Évangile est une question de transformation. Nous venons à Jésus tel que nous sommes, les uns comme les autres. Mais une fois Jésus-Christ, il y a toute une œuvre par le Saint-Esprit, le matériel de changement de vie, de transformation. On appelle parfois la sanctification, oui, parce que Dieu est intéressé par nous rendre semblables à Jésus-Christ. Il est notre modèle, il est notre exemple. Et Dieu nous met la marque, comme nous savons que le caractère vient du grec qui veut dire empreinte, marque. Et Dieu est intéressé par mettre dans nos vies la marque de Christ, l'empreinte de Christ, afin que ce ceux qui le voient vivre en temporal puissent découvrir en nous qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, puissent découvrir le Christ. Alors en souffrance, on a l'impression que rien ne bouge, rien ne pousse, mais dans le souffle, les racines sont en train de se développer. Et Dieu est intéressé par développer dans la vie des racines de foi, des racines de confiance, des racines de courage, des racines d'audace, des racines d'endurance, des racines de persévérance. S'il veut nous construire l'œuvre, il va falloir travailler notre fidélité, notre constance. Ça existe, c'est du caractère. Dieu développe des racines de stabilité. Les fruits de l'esprit, en quelque sorte. Des racines d'amour, des racines de pardon, des racines de grâce, des racines de maîtrise de nous-mêmes. Et l'attente, le retardement permettent tout cela, mais permettent également de préciser la vision. Et nous sommes à l'épine en train de vivre ces choses, frères et sœurs. Que Dieu précise sa vision pour nous, qu'il précise l'intention qu'il a fait pour notre Église, afin que nous restions fidèles à notre vocation. Mais Dieu est en train de développer aussi des racines de résilience. La résilience, c'est pour un produit, par exemple, la capacité de retrouver ses propriétés après une altération. C'est-à-dire que, quels que soient les coups qui nous sont portés, on vient toujours à la même place. Un coup, on part à gauche, un coup, on part à droite, on reçoit des coups de tous les côtés, des coups de la vie, ça s'arrive à tout le monde, c'est tous les jours. Et à un moment donné, on revient dans notre position, en Christ. Notre stabilité est en Christ. Notre identité est en Christ. C'est important, frères et sœurs. La résilience, cette capacité à retrouver sa position, quel que soit le coup qui nous apporte, quel que soit le côté vers lequel on nous pousse, je reviens à ma place et à ma position de stabilité. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De tout mon peur. Alors, avoir la foi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus peur. On a plus peur. Mais la foi va surmonter cette peur. Elle va être plus grande et je vais l'exercer sur ma peur. David a développé des racines de résilience. Et le géant du délai de l'attente, il ne l'a pas connu tout seul. Il y a eu d'autres géants qui sont venus avec lui. Très souvent, quand on a fait face à un géant, ils sont plusieurs. Et le géant de l'attente était accompagné par le géant du découragement et puis par le géant du doute. Des gens que nous connaissons, n'est-ce pas? Ou bien? Oui. Et dans l'histoire de David et de Goliath, on s'aperçoit que David baigne dans une atmosphère de découragement et de doute. Est-ce que vous vivez en ce moment une atmosphère de découragement et de doute? Alors, bienvenue à l'écoute de cette parole. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin Goliath s'avance matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 24 du chapitre 17. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. 40 jours, matin et soir, jour et nuit, 40 jours, vous savez, 6 semaines. Ils baignaient dans cette atmosphère de découragement. Le résultat, c'est que les gens ont pris la fuite et les peurs sont partis. L'ambiance de découragement, alimentée pendant 40 jours. Le bibliste Jacques Neuvillard a dit ceci, pour bien lire la Bible, il faut lire comme les musiciens, sur et entre les lignes, en n'oubliant pas les chiffres qui indiquent le tempo. Je vous donne raison. Le chiffre 40 est par exemple l'expression de la méditation de l'épreuve. Le chiffre 40 exprime une idée de transition, de transformation. Au fond, c'est le temps du façonnage du cœur par Dieu. Je répète, ce tous les personnages du cœur. Il me semble que plusieurs d'entre nous sont en train de vivre une saison de parfumage. Du cœur par Dieu. Alors, les liens du découragement et du doute sont capables de vous paralyser, de vous fuir. Si vous prêtez attention à leur voix, vous allez même risquer de faire avorter le plan de vie, c'est le risque, si on prête attention à ces voix. Alors pourquoi les soldats, pourquoi l'armée était-elle paralysée? Et justement parce qu'elle a prêté attention à la voix de ces gens. Ils ont écouté la mauvaise voix. Ils restent dans l'air, ils restent paralysés, figés. À trois reprises, le texte nous dit qu'ils étaient rangés en ordre de bataille. Et j'ai l'impression que c'est lui renverser un géant. Il faut savoir pourquoi sortir derrière. Et l'image, David arrive sur le champ de bataille. L'armée était rangée, on nous dit trois fois, en rang de bataille. David arrive, il vient d'extérieur, il voit tout le tableau, il est à l'extérieur des rangs. Quelqu'un qui n'est pas rangé, c'est quelqu'un qui dérange. Il dérange. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser déranger? C'est-à-dire sortir des rangs. On n'a jamais fait comme ça. Personne n'a jamais fait comme ça. On n'a pas l'habitude de faire comme ça. Sortir des sentiers battus, sortir de nos habitudes, sortir du train-train et de la routine, de ce que font tout le monde. On n'a jamais fait comme ça. Sortir des rangs. Pour vaincre certains géants, il faut savoir sortir de là. Et je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de dire à des pieds aujourd'hui, sortez de là. Laissez-vous déranger. Voyez plus loin, voyez plus grand. Non pas pour se faire un film, on n'a pas la folie des grandeurs, mais on veut voir aussi grand que Dieu. On veut vivre pour lui, on veut le servir, on veut l'aimer, et on veut rendre hommage à tout ce qu'il fait. Au milieu de nous, tout le bras pour le Seigneur et lui seul. Si on veut renverser un géant, il faut parfois sortir de nous. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il ne voit pas les choses comme l'armée l'a vu. Il n'a pas du tout la même vision, il n'écoute pas la même voix quand il sort des rangs. Sortir des rangs, ça veut dire discerner la voix de Dieu, entendre cette voix de Dieu. Au-delà de toutes les autres voies. Sortir des rangs, c'est entendre différemment et voir différemment. Les familles sont restées paralysées, figées, parce qu'ils n'écoutaient pas la bonne voix et parce qu'ils ne regardaient pas dans la bonne direction. J'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à entendre la voix de Dieu. On l'entend dans sa parole, bien sûr. On peut l'entendre dans la prière, on peut l'entendre de manière intérieure, par le Saint-Esprit qui nous parle, lorsqu'on est sensible à Dieu. Il y a des murmures, il y a parfois dans la Bible des histoires assez intéressantes. On s'aperçoit que Dieu, tantôt parle d'une façon très forte et très évidente, mais très souvent, parle de façon très discrète. Il dit à David, quand tu entendras le bruit de pas dans les murs, il va revenir. Lorsque Élie est devant la grotte, il y a des tremblements de terre, il y a du feu de la mer, etc. La Bible dit que Dieu est écouté dans le bruit. Par contre, à un moment donné, il y a eu comme un bruit. Et là, Dieu s'est fait connaître. Et que ce temps est venu aussi pour notre assemblée, pour nous, dans tout le monde de la vie. Dans le monde, lorsqu'on se pose, lorsqu'on se tient devant Dieu. Il n'y a plus rien à dire. Il faut un miracle pour que Dieu nous emmène plus loin et nous étonnons de sa part, ce miracle. Avec toutes les démarches qui sont faites, bien sûr, nous avons notre plan et notre rôle. Mais Dieu doit avoir toute sa part de gloire dans le projet qui est devant nous. Il y a toutes sortes de voix qui cherchent à se faire entendre. Mais c'est la voix de Dieu qui doit être préparée. Le texte nous dit à la vue du géant, à la vue du géant, dans le plan, Et j'avais presque te dire ce matin, dis-moi qui tu entends, dis-moi qui tu vois, et je te dirai, et dis-moi qui tu écoutes, je te dirai qui tu es et qui tu vas devenir. L'antidote à ce géant du découragement et du doute, c'est de voir les choses telles que Dieu les voit. Et nous voulons considérer sa grandeur. Alors, il y a tout faire de bon, je viens de le dire à l'instant. Il y a la voix de ceux qui n'ont pas réussi dans leurs entreprises et qui vont te dire qu'on ne peut pas réussir, c'est pas pour toi, c'est trop grand, laisse tomber. Il y a la voix du bon sens qui te dira c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Celle de la logique humaine qui dit c'est irréalisable, c'est trop difficile, etc., etc. Il y a toutes sortes de voix. Et la question consiste à savoir qui nous allons écouter et quelle voix nous voulons. Écoutez la voix de ceux qui vous aiment. Écoutez la voix de celui qui vous appelle pour faire sa volonté. Et dans l'accomplissement de sa mission, Jésus lui aussi a été retenu. Il a aussi été empêché par tel ou tel membre de sa famille, mais il ne s'est pas laissé arrêter. Dans Marc au chapitre 3, verset 21, lorsqu'il a prié, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Dans Jean chapitre 7, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus avait quatre frères et au moins deux sœurs. Et donc, ils ont essayé de l'empêcher. Marc chapitre 6, n'est-il pas le fils du charpentier, disaient certains, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Simon, de Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et Jésus n'a jamais prêté attention à la voix de ceux qui voulaient l'empêcher d'accomplir son mission. Il est allé jusqu'au bout. Comme l'a rappelé le don spirituel tout à l'heure, il est allé jusqu'à la croix, mourir pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous serions réconciliés avec Dieu, nous serions pardonnés. Il savait qui il était, il savait d'où il était, d'où il venait, et il savait où il allait. Le psaume 27 est une lumière pour l'éternel. Et ma lumière, et mon salut, de qui aurais-je peur? Que peur que faire? Voilà quelques pensées que je voulais partager avec vous ce matin pour vous encourager. Les uns comme les autres, nous avons pu faire face à un géant. J'invite l'équipe à remonter, nous voulons chanter encore un chant, et nous voulons dans un temps de prière. Nous concentrer tout à nous en disant, oui, Seigneur, aujourd'hui je suis devant un géant. Toutes sortes d'expériences. Et je suis là devant la difficulté, devant le problème, devant ce doute, devant ce découragement, devant ce temps d'attente. Je veux aujourd'hui te dire à nouveau toute ma confiance, toute mon espérance et toute ma foi. Et si nous sommes tous les deux, nous pouvons quelque part dans notre cœur. Je vous invite à votre femme, à prier. C'est pour discerner ce que tu m'as fait de me dire. Je sais ce que tu m'as donné. Je sais ce que j'ai reçu de toi. Je sais ce que je suis en toi et avec toi. Je me suis laissé décourager à un moment ou à un autre. Mais oui, si je fais prendre et empêcher dans l'autre monde, mon père, il y a mes perdus. Bonne nouvelle pour toi, pour moi. Nous pouvons reprendre pied. Nous pouvons revenir à notre place. Nous pouvons exercer notre résilience. Et le Seigneur, je reviens à ma place. Je reviens là devant toi, parce que c'est toi qui m'as dit, je veux